Je passe la parole à Mathieu de la chronique des apatrides anonymes. Il nous parle aujourd'hui de la chasse aux fraudeurs de la citoyenneté canadienne, d'Ottawa et sa gestion des immigrants illégaux, et de l'intensification de la chasse aux clandestins en France dans le contexte de la crise européenne.
Bonjour Anouk.
Bonjour.
Merci de me passer la parole. Donc oui, fidèle à nos habitudes, cette chronique des apatrides, on va parler à la fois de sujets au Canada et au niveau international. C'est un peu notre habitude depuis quelques temps. Parce qu'au Canada, il y a toujours malheureusement beaucoup d'activistes de la part du gouvernement fédéral pour faire soit un peu de propagande, soit faire un peu de mesures anti-immigration. Donc, on essaie de décortiquer ça, de vous présenter ce qui se passe, parce que souvent, c'est des nouvelles un peu techniques qui passent pas nécessairement dans les grands titres. Je vais commencer, oui, tu en parlais, les pseudo-fraudeurs à la citoyenneté. On revient en arrière. En 2012, l'ancien ministre Jason Kenney avait annoncé que suite à des enquêtes d'envergure de la GRC, plus de 3000 Canadiens et Canadiennes pourraient perdre leur citoyenneté car ils l'auraient acquise de manière frauduleuse. Pas beaucoup plus de détails à l'époque là-dessus, mais on nous disait que c'était quelque chose de très sérieux, que ça remettait en cause la validité de la citoyenneté canadienne et qu'on agirait rapidement pour que ces gens-là, la plupart des gens qui ont une double citoyenneté d'ailleurs, allaient perdre donc leur citoyenneté assez rapidement. Finalement, on a ressorti les chiffres trois ans plus tard à peu près. Et depuis donc 2012, seulement 81 personnes ont perdu leur citoyenneté sur les 3000 appréhendées comme étant des personnes frauduleuses. Donc, on se rend compte un peu que c'est une autre balloune qu'on appelle ici, une autre grossièreté pour un peu, discréditer le système d'immigration, pour un peu, blâmer certaines catégories d'immigrants ou d'immigrantes. Et comme les conservateurs, entre-temps, ont beaucoup réformé le système d'immigration et d'asile au Canada, ça faisait partie un petit peu des peurs ou de la propagande qui était faite à l'époque. Donc, Citoyenneté Immigration Canada explique que l'écart entre 3000 et 81 s'explique par le fait que la plupart n'étaient pas coupables de fraude. quel drôle de réponse, un peu candide. Donc, finalement...
Comment est-ce qu'ils définissent fraude? C'est quoi, en fait, leur...
C'est des gens qui auraient fait des fausses demandes, par exemple, qui auraient fait des fausses déclarations, que ça serait fait passer pour quelqu'un d'autre, n'auraient pas dit certains éléments de leur dossier. Mais ça, ils ne le détaillent pas non plus. C'est vraiment, on annonce... les chiffres, ça a été obtenu par des médias, donc le gouvernement est plus sur la défensive, donc il n'a pas vraiment expliqué pourquoi, mais il est obligé de sortir le chiffre que seulement 81 personnes. Donc, on parle de gens qui ont reçu une lettre d'intention en 2012. De quoi s'inquiéter quand on se fait dire, vous allez perdre votre citoyenneté sûrement dans les prochains mois. Et donc, 3 ans plus tard, pas de nouvelles. Ces gens-là sont toujours sans nouvelles parce que la plupart n'ont pas eu de procédure entamée contre eux, contre elles. Mais ces gens-là, en attendant, leur dossier est comme, on peut dire au niveau administratif, un peu gelé. Donc, s'ils veulent renouveler leur passeport, avoir des papiers, ça peut être compliqué. Donc, ça a des conséquences sur la vie des vraies personnes, donc ces mesures-là. Et dans les cas où ça s'est rendu devant les tribunaux, donc la Cour fédérale, les juges ont été assez durs envers les gens, donc pas eu vraiment de... parce que les gens ont des recours, mais ça a été assez difficile pour les gens d'essayer de prouver qu'ils n'étaient pas des fraudeurs. Donc, ça rajoute en plus à la difficulté. Mais l'idée qu'on a compris, c'est que le gouvernement fédéral voulait faire une espèce de jurisprudence en ayant quelques cas qui seraient entérinés par les cours. Après ça, dire que là, il y a beaucoup de monde puis aller plus loin, mais ça non plus, ils n'ont pas réussi à le faire. Peut-être pour noter que, donc, 81 personnes depuis 2012, 45 seulement dans les 3 derniers mois, donc on a accéléré le processus en fonction des chiffres qui allaient sortir, j'imagine. Et entre 1947 et 2012, moins de 70 personnes ont perdu leur nationalité canadienne. Donc, si on veut relativiser un peu au niveau des chiffres, on voit que... voilà. Donc, pour la suite, on a fait des nouvelles règles tout récemment, donc depuis le mois de mai dernier. Le processus de révocation a été modifié pour accélérer justement les dossiers. Donc, avant, il y avait plusieurs étapes. Donc, les gens pouvaient aller se défendre en cour, pouvaient faire appel. Et là, on a vraiment coupé les étapes. Donc, c'est le ministre qui décide. Si les gens ont la possibilité, peuvent aller en appel. Mais dans les faits, ça va être beaucoup plus rapide pour les personnes supposément frauduleuses au niveau de l'acquisition de leur citoyenneté. Donc, c'est à la veille des élections toujours. On calcule ça, évidemment. Donc, des mesures...
C'est des changements qu'on a vus avec la loi C-24, notamment, non?
C'est ça, c'était sur les criminels, c'est ça, exactement?
Non, pas forcément. C'était aussi sur la double nationalité des gens qui fraudaient pour faciliter, en fait, l'expulsion, en fait.
OK, OK.
Je pense que ça jouait.
Mais il y a eu beaucoup de mesures récemment dans ce sens-là. Donc, voilà pour cela. Au niveau des immigrants dits illégaux, on sort régulièrement les chiffres. C'est souvent les médias aussi qui demandent d'accès à l'information. Le nombre de personnes qui sont dites officiellement illégaux au Canada, c'est-à-dire dont on a perdu la trace, que leur délai de demande de de statut a été terminé. On parle de 44 000 personnes qui vivraient donc en illégalité, entre guillemets, au Canada, la plupart dans les régions de Toronto et de Montréal. Et 44 000, qui est un chiffre relativement petit quand on pense qu'aux États-Unis, on parle de 15 millions, peut-être plus, de personnes qui sont dans des situations irrégulières. Mais le ministre actuel de l'immigration, Chris Alexander, a dit qu'il n'est pas question d'imiter Washington et de régulariser les gens qui sont en situation irrégulière, parce que c'est une demande des groupes depuis des années, que les gens qui sont dits légaux, parce que la plupart, c'est des réfugiés qui ont été déboutés, soient donc régularisés, mais c'est refusé par le Canada depuis toujours. Mais pas besoin de nous le dire, on sait que c'est refusé. D'ailleurs, le ministre déclare que, vu que le nombre est beaucoup moins important au Canada, que c'est gérable comme situation par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est une petite population, donc on peut continuer à essayer de les arrêter, de les attraper, de les expulser finalement, sans faire de programme de régularisation. Pour lui, pour le ministre, le Canada a sa propre voie de régularisation des immigrants en situation régulière, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui existe de demander le statut de réfugié et de le demander pour des motifs humanitaires, c'est refusé. Mais on sait très bien que c'est un petit nombre de personnes qui réussissent à avoir accès à ce programme-là. Donc, c'est une drôle de réponse. Et il répond dans le même sens, un peu dans ce genre de discours-là, que le fait d'avoir réduit le sursis accordé aux gens pour les demandes, parce qu'on sait qu'il y a eu une grosse réforme, comme je disais tantôt, dans les dernières années, donc d'avoir réduit le sursis accordé aux gens qui ont échoué dans leurs audiences, ça permet de diminuer, en bout de ligne, le nombre d'illégaux. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, il y a moins de monde parce qu'on est plus sévère. Après ça, on dit, ben ceux qui sont là, on va s'occuper des expulsés quand même. Donc, pour lui, la réforme a réussi, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Peut-être vous dire aussi que le discours aussi du fédéral, souvent, c'est de dire que les immigrants illégaux sont dangereux, sont des criminels. Et finalement, l'Agence des services frontaliers a déclaré que sur les 44 000 illégaux, il y en aurait moins de 2 000 qui auraient donc des dossiers criminels. Donc, on parle pas de quelque chose de très, très généralisé. Ben voilà, mais c'est dans la même logique actuelle. Peut-être une petite nouvelle aussi que je voulais rajouter. Toujours dans les mesures fédérales, on a appris au début juin, qu'il y aurait un nouveau visa biométrique pour les visiteurs de 150 pays. Pour l'instant, c'était 29 pays qui étaient visés par ces visas. On parle quand même ici de photos numériques, d'empreintes digitales, photos numériques du profil et de l'œil des gens qui demandent un visa. C'est quand même assez intrusif et assez important. On parle d'un système qui serait mis en place pour 2019. Donc, actuellement, 29 pays, les classiques un peu, les pays qui sont souvent mis de côté, mais là, on parle de 150 pays dont les ressortissants ont besoin d'un visa pour venir au Canada. Donc, ces gens-là devraient fournir ces données-là avant de venir ici. On parle quand même de 85 $ par personne, 170 $ par famille. Donc, c'est des revenus, évidemment, pour le Canada, et c'est des coûts pour les voyageurs ou les personnes qui veulent venir étudier ou quoi que ce soit ici. Et on dit dans le discours officiel que ça permettra de mettre la main au collet de terroristes, d'immigrants légaux et de djihadistes revenant au Canada, évidemment. Donc,
toujours le terrorisme
et les immigrants légaux, c'est toujours facile. Ça a été annoncé en plus un peu rapidement. Ça a été intégré dans le projet de loi sur le budget. Pour ceux et celles qui connaissent la façon de faire des conservateurs, des projets de loi mammouth sur l'adoption du budget qui inclut un paquet d'autres réformes souvent qu'on n'a pas le temps de débattre parce que c'est un projet de loi qui passe à vitesse grand V. Et donc, il n'y aura pas de débat sur cette question-là. Donc, les gens vont devoir fournir ça, les gens qui viennent de l'extérieur. Mais certains observateurs ont fait remarquer que c'est plus gros que le registre des armes à feu à gérer, qui a été un échec là, au Canada au niveau de l'administration, et que ça va être énormément d'informations à gérer et à protéger parce qu'on parle des données biométriques de millions de personnes, de dizaines de millions de personnes, et ces gens-là devront être contrôlés régulièrement s'ils reviennent souvent au Canada. Donc, ça va être une gestion très, très importante. Beaucoup de bureaucratie, beaucoup de demandes spéciales, d'accès, tout ça. Donc, est-ce que ça va vraiment être mis en place d'ici 2019? Ça va être à vérifier. Donc, ça va être à suivre, voir si ça va être réaliste. Pour l'Europe, je vais passer tout de suite à mon autre sujet principal. Pour ceux et celles qui ont moins suivi l'actualité dans les dernières semaines, en Europe, il y a toute ce qu'on appelle la crise des migrants, bon, qui viennent par la mer et aussi par terre, parce qu'il faut pas oublier que on parle beaucoup de ceux qui viennent par la Méditerranée, du Moyen-Orient ou de l'Afrique, mais il y a plein de gens qui rentrent par les frontières de l'Est, entre autres qui viennent des pays de l'Est, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Vendredi, on a su que l'Union européenne, fort de ses 800 millions d'habitants et de ses milliards, de dizaines de milliards de PIB, n'était pas capable de recevoir 40 000 réfugiés, de se répartir 40 000 réfugiés avec un système de quotas. Ça a été refusé par plusieurs pays, donc ça a été une espèce d'échec, échec par-dessus échec encore vendredi dernier. Quand on pense qu'au Liban, il y a 1,5 million de réfugiés syriens, qu'en Turquie, il y en a 2,5 millions, et que la grande Europe n'est pas capable de recevoir 40 000 personnes et de se partager ces 40 000 personnes, c'est assez dramatique. Et mais les conséquences dans les faits, c'est qu'on a vu à Paris, entre autres, dernièrement, plusieurs campements de réfugiés en plein cœur de Paris, dans le 18e, entre autres, à la Chapelle ou à le Pajol, et avec des expulsions manu militari par les CRS. Et beaucoup de gens se sont rendus compte, en tout cas ici en Amérique du Nord, que oui, même à Paris, il y avait encore des campements de réfugiés, pas juste de gitans, là, mais de réfugiés soudanais, érythréens, syriens, et qui avaient un appui populaire aussi, et que ces gens-là vivaient pendant des mois, souvent dans des camps, sur le bord de la rue, en dessous du métro aérien, et que finalement, ils se faisaient déplacer d'un endroit à l'autre, et que le système d'hébergement temporaire ou le système d'asile était complètement déficient. Et ensuite, on a vu à la frontière italienne et française un essai de psychodrame la semaine passée, il y a deux semaines, où des centaines de migrants, de réfugiés se sont trouvés pris entre les deux pays. Les Français les retournaient en Italie, les Italiens les laissèrent partir, mais devaient les empêcher d'aller en France. Et on se rendait compte que finalement, le chiffre de 40 000 migrants est beaucoup plus important que ça, évidemment, dans les gens qui se promènent en Europe. La plupart veulent aller vers le nord, vers l'Angleterre, vers la Scandinavie. Doivent passer par la France et les Italiens qui, eux, sont débordés avec le nombre de réfugiés qui arrivent et demandent une solidarité européenne et ne l'ont pas. Donc, ils essaient de jouer un peu cette game-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Bon, ça n'a pas été dans les grands médias ici au Canada, mais quand même, quand on fouille un peu, on trouve les informations. Et on a même su aussi récemment que l'Angleterre, où plusieurs migrants veulent se rendre, ont offert à l'Europe et aux Français de renforcer le processus, le dispositif sécuritaire à Calais, en France, qui est l'endroit où les gens prennent l'Eurostar pour aller en Angleterre. Donc, de mettre des clôtures de plus, de mettre des millions de dollars pour renforcer la frontière. Donc, pendant qu'on essaie politiquement, supposément, de régler la situation, mais qui ne se règle pas du tout parce que finalement, il n'y a aucune solution. On l'a vu avec l'échec de vendredi dernier. On renforce les mesures sécuritaires. On expulse des gens dans des villes comme Paris. On bloque, on remet la frontière, les frontières entre les pays qui n'étaient plus là depuis l'espace Schengen et l'Europe unie. Et là, on se retrouve avec finalement des frontières qui reviennent, des gens expulsés, de plus en plus de gens qui viennent. Les morts aussi qu'on a. La Hongrie a décidé de plus reconnaître le droit d'asile, donc réexpulse les gens automatiquement. L'Italie va laisser les gens passer un peu partout pour en mesure de représailles parce qu'ils sont tannés d'en occuper seuls. Et la Grèce, qui est le deuxième pays qui en reçoit le plus, avec tous les problèmes qu'ils ont actuellement. Donc, c'est le chaos en Europe.
En Europe du Nord.
Oui, ça fait partie de l'Europe au niveau en général des décisions. Puis on peut se demander en aparté ce qui arrive avec l'Union européenne. Mais tout ça pour dire que ça va durer tout l'été, cette crise-là, autant médiatiquement que politiquement qu'économiquement, et que les solutions ne sont pas du tout à l'horizon pour l'instant. Voilà, je conclue là-dessus.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Et il y aura des apatrides, sûrement dans le courant de l'été, qui viendront faire d'autres chroniques à CKUT, en profondeur.